propose d'introduire cette réflexion de ce soir et cette réflexion sur le livre de Ruth par un simple verset, par le premier verset que l'on trouve, et nous nous arrêterons même sur la première partie du premier verset, de manière à bien définir le contexte historique afin de faire ressortir toute la beauté de ce que cette femme moabite, n'appartenant pas au peuple hébreu, eh bien va vivre. Au temps du gouvernement des juges, il y eut une famine dans le pays. Ici, le premier verset de ce livre situe le contexte du récit qui va suivre. Ce récit se situe du temps des juges. Et nous savons que le temps des juges est un temps qui, finalement, est un temps ô combien noir, où le peuple a eu des hauts, où le peuple a eu des bas. Lorsque, eh bien, il se repentait, le Seigneur, enfin Dieu, et Dieu appelait un juge qui allait les délivrer. Et au fur et à mesure, ensuite, une fois que ce juge n'était plus là, eh bien, il tombait, il chutait. Et ainsi, eh bien, ça a été une suite de hauts, de bas, de victoires et d'échecs. Et finalement, au milieu de tout ça, de tout ce contexte, eh bien, il va y avoir ce récit de Ruth qui est comme une lumière, qui est comme un coin de soleil au milieu de tout ça. Le livre des juges peut nous faire penser à l'apostasie que la Bible nous annonce dans les derniers temps et que nous vivons. Il peut nous faire penser, eh bien, à ces temps où les hommes deviendront fanfarons, amis de l'argent, égoïstes, etc. et où finalement, eh bien, même l'amour du plus grand nombre se refroidira. Nous croyons que nous sommes dans ces temps-là, mais nous croyons que de la même manière que du temps des juges, il y a eu, eh bien, une solution, et il y a eu une belle histoire. Eh bien, nous croyons que du temps, dans notre génération, même si la situation paraît bien noire et que la nuit semble venir, eh bien, il y a de belles histoires. Dieu a de belles histoires pour nous. Dieu a de belles histoires, a de belles conversions pour nous. Et nous en sommes les témoins. Vous êtes tous une belle histoire, un beau récit. Si jamais ce soir on vous faisait témoigner, il y aurait finalement des tas de belles choses à dire sur ce que Jésus a fait dans notre vie. Et je crois de tout mon cœur que nous sommes ces lettres lues, ces lettres ouvertes, comme l'écrit Paul aux Corinthiens, et qui sont écrits avec le Saint-Esprit. Et regardez votre voisin et dites-lui, tu es une belle histoire. Tu es une belle histoire. Hein? Nous sommes tous de belles histoires. C'est vrai, hein? Nous sommes écrits avec l'encre, eh bien, du Saint-Esprit. Ce que je vous propose ce soir, c'est de voir un petit peu pourquoi ce livre des juges a été aussi sombre. De manière à ce que nos vies, et de manière à ce que l'église dans laquelle nous sommes, eh bien, ne traverse pas des temps aussi compliqués, des temps aussi difficiles. La première chose que nous voyons, c'est que, eh bien, du temps des juges, chacun faisait ce qui lui plaisait. Chacun faisait ce qui lui plaisait. Lorsqu'on s'arrête un petit peu sur cette expression, faire ce qui semble bon, littéralement, ça signifie faire ce qui semble droit, juste, correct, convenable et sincère. Donc, à première vue, on peut se dire que, finalement, eh bien, c'est une expression qui est plutôt positive. C'est une expression qui est plutôt bonne. C'est-à-dire que chacun, si on s'en tient à la définition stricto sensus, eh bien, cherchait à faire ce qui semblait droit, semblait chercher ce qui était juste, correct, convenable et sincère. Donc, pas de souci. On se dit, c'est pas une explication à la période aussi sombre. Mais le problème vient des repères que chacun avait. Puisque le seul repère que les hommes avaient dans ce temps-là, c'était pas forcément de faire ce qui semblait bon ou correct, mais c'était de faire son propre intérêt, d'accomplir uniquement sa propre volonté. Le repère central n'était plus la loi de l'Éternel, le repère central n'était plus la parole de Dieu, le repère central n'était plus l'intérêt du peuple, le repère central n'était plus l'intérêt de Dieu, l'intérêt de l'œuvre de Dieu, mais le repère central était ce que chacun était, le bien de chacun, et chacun recherchait son propre intérêt. Et finalement, cela se retraduisait par le culte aux idoles, cela se retraduisait par des actes ineptes, totalement impies, parce que, eh bien, chacun faisait ce qui lui plaisait. Et nous savons que dans la nature de l'homme, eh bien, notamment quand il n'est pas régénéré, l'adoration et la fidélité à Dieu n'est pas quelque chose d'inné, nous y reviendrons. Et quelle est la conséquence d'une telle attitude? C'est que cela générait un désordre dans le pays, parce que les intérêts individuels s'affrontaient. Étant donné qu'ils n'étaient plus cadrés, chaque intérêt, eh bien, finalement, empiéter sur l'intérêt de l'autre. C'est l'intérêt de Vanessa, si jamais c'était le cas dans l'église, l'intérêt de Vanessa empiéterait sur l'intérêt de Yann. Et de ce fait, il y aurait conflit, il y aurait affrontement, et ce serait quelque chose de tragique et quelque chose, bien de terrible. Et cela a généré une non-bénédiction, car les intérêts de Dieu n'étaient plus mis à l'honneur. Si nous voulons la bénédiction dans nos vies, dans l'église, pour notre ville, eh bien, ce sont les intérêts de Dieu qui doivent être mis à l'honneur. C'est le nom de Jésus qui doit être glorifié. Nous devons chercher avant toute chose eh bien que ce soit le nom de notre Sauveur qui soit mis en avant. La pensée de Dieu est tout autre. Nous savons, Philippiens chapitre 2, verset 4, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. La version parole de vie, la transcription plutôt parole de vie, nous apporte quelques précisions que l'on va détailler. Ne pensez pas seulement à vos intérêts personnels ou à l'avantage que vous pouvez tirer des autres. C'est fort, hein ? Désirez au contraire le bien de votre prochain et prenez ses progrès à cœur. On va décrypter un petit peu tout ça. Première chose, ne pensez pas seulement. Le pas seulement est important. Parce que dans nos conceptions chrétiennes, on se pense que, eh bien, si on résume un petit peu les choses ou si on les simplifie, nous ne sommes plus importants. Je ne suis plus important, la seule chose qui compte, c'est Anaël. Voilà. Moi, je suis plus important, je m'oublie, la seule chose qui compte, c'est Anaël. Mais c'est pas ce que dit Paul. Il dit ne considérez pas seulement vos intérêts. Sous-entendu, il est nécessaire également de considérer nos intérêts. D'ailleurs, Jésus demandera à ce qu'on le prie et à ce que l'on demande. Hein, il ne faut pas l'oublier. Hein. Il est important de gérer nos vies et puis, quelque part, de chercher le bonheur, d'essayer de construire les choses de manière rationnelle. Il est important de prendre en considération ce que nous sommes. Hein. De prendre en considération nos vies, de prendre en considération nos foyers. Nous n'avons pas à tout jeter sur la voie publique et à tout lapider comme ça, en deux coups de cuillère à peau, hein, sous prétexte de sainteté ou de sanctification. Là n'est pas le propos. Saint Paul dit, ne cherchez pas seulement vos intérêts. Et je crois de tout mon cœur, et je crois que je l'ai évoqué jeudi dernier, hein, c'est que finalement, eh bien, le vrai bonheur, c'est de faire coïncider nos intérêts individuels avec le plan de Dieu. Et c'est ça que nous devons veiller à faire, c'est que véritablement, lorsque je recherche mon bien, eh bien, est-ce qu'il est cohérent avec le plan de Dieu? Est-ce que c'est le temps de Dieu? Est-ce que c'est le moment de Dieu? Est-ce que c'est véritablement ce que Dieu veut pour ma vie? Ne pensez pas seulement à vos intérêts personnels, mais ou à l'avantage que vous pouvez tirer des autres. Ce simple passage, moi, m'a bouleversé. Ou à l'intérêt que vous pouvez penser des autres. Vous pouvez tirer des autres. Est-ce que cela vous est déjà passé par l'idée que éventuellement on pourrait, eh bien, utiliser l'autre pour uniquement à nos propres fins? Visiblement, oui. Puisque Paul le dit. Et je me dis que, quelque part, c'est très humain. Mon voisin ne peut être l'outil de mon bonheur. On peut retrouver ça dans un couple. C'est plus une femme que j'ai à côté de moi. Mais c'est une machine à me rendre heureux. C'est plus un mari que j'ai. Mais c'est une machine à me rendre heureux. C'est plus une église que j'ai, mais c'est une machine à me rendre heureux. C'est sous-entendu. L'autre, je dois tout recevoir de l'autre. L'autre est voué à mon bonheur. L'autre est sacrifié à mon bonheur. C'est plus un être humain que j'ai en face de moi, mais c'est une machine à générer le bonheur en moi, à générer le confort, et à exaucer finalement tous mes petits caprices. C'est ce qu'on peut faire de Dieu, entre parenthèses. On peut penser que Dieu n'est là que pour exaucer nos prières, quand nous voulons et quand nous le désirons, et que lorsque, pour une raison ou pour une autre, les choses ne viennent pas suffisamment vite, qu'est-ce qu'on fait? Non. Ne considérez pas uniquement vos propres intérêts ou l'avantage que vous pouvez tirer des autres. Troisième chose, les désirés. Le terme est fort. Alors j'ai cherché dans un dictionnaire la définition du désir. Tendre consciemment vers ce que l'on aimerait posséder. Et là, il y a deux termes qui sont importants. Consciemment. Le désir paraît toujours être quelque chose de latent, quelque chose qui est inavouable. Mais là, en l'occurrence, le désir est conscient. Donc le désir prend sa naissance dans une prise de conscience. Tout d'un coup, je réalise que l'autre a des besoins. Je réalise que Dieu a des besoins. Pourtant, il possède toute chose. Et Dieu a des besoins. Ouais. Il a des besoins. Je réalise que autour de moi, il y a des gens qui ont des besoins. Et finalement, cette prise de conscience me fait naître en moi, bien finalement, le désir de posséder. Mais je ne possède pas l'autre. C'est un peu philosophique. Mais en revanche, je possède en moi la possibilité de rendre l'autre. Yann possède la possibilité de rendre Vanessa heureuse. Et Alexandra a la possibilité de rendre Florence heureuse. Nous l'avons en nous. Et à partir du moment où nous prenons cette prise de conscience-là, eh bien, tout d'un coup, eh bien, nous avons envie, nous avons besoin. Le Saint-Esprit génère en nous le désir de dire, qu'est-ce que je pourrais faire pour lui faire du bien? Qu'est-ce que je pourrais faire pour faire du bien à mon prochain? Qu'est-ce que je pourrais faire pour faire du bien même à mon ennemi? Qu'est-ce que je pourrais faire pour faire du bien, tout simplement? Parce que, tout d'un coup, on pose les regards sur l'autre. Tant des juges, l'autre ne comptait pas. On pouvait le couper en morceaux et puis l'envoyer aux 12 tribus de Juda, aux 12 tribus d'Israël, ce qui s'est passé pour un homme. On pouvait mettre, bien, comme sacrificateur, comme on voulait, dans la maison, etc. L'autre ne comptait plus. La seule chose qui comptait, c'était l'intérêt personnel. Le Seigneur nous garde. Et qu'il nous fasse réaliser que nous sommes ses outils. On aime ce verset qui dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, qui sont appelés son dessein. Mais est-ce que nous prenons conscience que nous pouvons être les outils dont Dieu se servira pour bénir un frère, pour bénir une sœur? Et pour, eh bien, la faire rentrer dans les desseins, dans le plan que Dieu a formé pour lui ou pour elle? Extraordinaire, ça. Dieu veut se servir de nous pour bénir notre prochain, pour bénir notre voisin, et pour le faire, eh bien, le faire entrer dans les plans, dans les projets de paix, dans les projets de bonheur que Dieu a formés sur sa vie. Conclusion de cette première partie. Temps des juges est un temps d'individualisme où le jeu prévalait sur l'intérêt collectif et sur l'intérêt divin. Bref, que le Seigneur nous garde et que, eh bien, nous puissions nous tourner les regards vers l'autre et quand nous nous levons le matin, nous dire de quoi est-ce qu'elle aura besoin? De quoi est-ce qu'elle aura besoin? De quoi est-ce que mon mari, ma femme aura besoin? De quoi est-ce que mon voisin aura besoin? Comment est-ce que je peux le bénir? Comment est-ce que je peux être un agent de Dieu pour véritablement, eh bien, le rendre heureux et lui faire du bien? Le second point qui caractérise l'époque des juges, on le trouve au chapitre 21, verset 25, lorsqu'il est dit qu'à cette époque, il n'y a pas de roi en Israël, et le verset que je viens de citer revient, chacun fait ce qui lui plaît. À cette époque, il n'y a pas de roi en Israël. Quel est le plan de Dieu pour l'humanité, à l'origine? C'est la théocratie. Qu'est-ce que c'est que cette bête-là? La théocratie, c'est le gouvernement par Dieu. Hein. Théos en grec, c'est Dieu. Hein. Donc, le plan de Dieu, lorsqu'il va appeler Abraham, et puis d'Abraham faire lever les patriarches, et des patriarches faire lever, eh bien, un peuple nombreux, le peuple d'Israël, duquel viendra le Messie, etc. Eh bien, quel est le plan de Dieu? C'est de diriger lui-même son peuple. C'est que ce soit lui-même qui conduit son peuple. Et l'une des plus belles images qui soit, c'est la nuée, c'est la colonne de feu, hein, dans le désert. C'est Dieu lui-même qui conduisait son peuple. Il y avait... Alors ensuite, il va instituer Moïse, il va instituer le culte lévitique, etc. Mais ces hommes n'auront finalement qu'une application spirituelle. Ils donneront des consignes, ils délivreront la voix de Dieu, mais le peuple restera libre. Et puis, dans le livre de Samuel, on va passer à quoi? À la monarchie. Puisque le roi aura, eh bien, toute autorité sur le peuple. Et d'ailleurs, quand on lit un petit peu les exigences que le roi, selon l'ordre de Dieu, aura sur le peuple, c'est quand même phénoménal, hein. Les biens, les fils, les richesses, etc. Bref, il aura toute possession, hein. Toute possession sur le peuple. Et du temps des juges, tout simplement, pourquoi ces deux images? Pour souligner le fait que l'homme a besoin d'un roi. L'homme a besoin d'autorité. Et le problème du temps des juges ne venait pas des hommes qui étaient forcément placés, bien que peut-être manquait-il de poigne, hein. Mais il venait du fait d'une mentalité, c'est que le peuple refusait d'être gouverné, refusait d'avoir un roi, refusait d'avoir une autorité. C'est plus qu'une absence d'homme, mais c'est surtout l'absence d'un état d'esprit. Et les sacrificateurs avaient peut-être baissé les bras, les juges baissaient les bras assez rapidement, peut-être pour certains, mais il ne faut jamais oublier que l'homme est né pour se soumettre. Du temps des juges, tant qu'ils avaient un homme pour marcher devant eux, ça posait pas de problème. Juges, chapitre 2, versets 18 à 19. Lorsque l'Éternel leur suscitait des juges, l'Éternel était avec le juge, et il les délivrait de la main de leurs ennemis pendant toute la vie du juge. Car l'Éternel avait pitié de leurs gémissements contre ceux qui les opprimaient et les tourmentaient. Mais, et le mais est terrible, à la mort du juge, ils se corrompaient de nouveau plus que leur père, en allant après d'autres dieux pour les servir et se prosterner devant eux, etc. À la mort du juge, tout changeait. Il était un petit peu, le peuple n'a pas changé finalement en quelques siècles, hein. Puisque tant que Moïse était là, ça fonctionnait. À partir du moment où Moïse monte sur le mont Sinaï pour récupérer les tablettes de la loi, qu'est-ce que va faire le peuple? Ils vont aller trouver Aaron et ils vont lui dire, si tu nous faisais un veau là, pour qu'on sache un petit peu qui est-ce qu'on adore. Le peuple n'a pas changé. Tant qu'il y a eu quelqu'un pour marcher à leur tête, tant qu'il y a eu quelqu'un pour souquer, entre guillemets, tant qu'il y a eu quelqu'un pour concrétiser Dieu, ça fonctionnait. Mais à partir du moment où cette personne n'était plus là, ils étaient totalement incapables de se gérer eux-mêmes. Ils n'avaient pas appris l'obéissance. Épître aux Hébreux, si ce texte qui est tout simplement extraordinaire, il dit que Jésus a appris l'obéissance dans les choses qu'il a souffertes. L'obéissance, ça s'apprend. Les Hébreux n'ont jamais appris l'obéissance. Et l'obéissance, ça s'apprend. Et la vocation, notre vocation, ce n'est pas de marcher parce qu'on a un pasteur qui nous souque, parce qu'on a des parents qui nous souquent, parce qu'on a un mari ou une femme qui nous souque. C'est pas le principe. Le principe, c'est que nous devons apprendre à marcher avec la théocratie, c'est-à-dire directement sous l'autorité de Dieu. Et ça, c'est loin d'être simple. Parce que lorsque nos repères changent, lorsque nos repères bougent, nos cadres s'élargissent, bien que se passe-t-il? Bien souvent, on va trouver un veau, ou alors on va trouver une idole quelconque, parce qu'on a besoin de concret. On a besoin de père. Et Jésus, lui-même, a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Je crois que l'une des prières que nous devons avoir dans notre cœur, c'est Seigneur, gouverne toi-même ma vie. Certes, j'accepte la soumission, nous allons voir un petit peu à quel degré, mais s'il te plaît, Seigneur, gouverne ma vie. Je veux directement dépendre de toi. Je ne veux pas être gouverné, je ne veux pas dépendre d'un homme pour me cadrer, je ne veux pas dépendre d'une femme pour me cadrer. Mais Seigneur, je veux que ce soit l'amour que je te veux, qui jour après jour me permette d'avancer. Que le Seigneur nous aide. Alors, me poserez-vous une question, mais sous la grâce. À qui devons-nous autorité? J'aime bien cette phrase. À qui devons-nous soumission? La première personne, c'est se soumettre à Dieu. Se soumettre à Dieu. Jacques, chapitre 4, verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Frère, ma sœur, si tu veux résister à la tentation, soumets-toi à Dieu. Le problème, c'est qu'à partir du moment où je ne me soumets plus à la loi de Dieu, au commandement de Dieu, j'ouvre comme une brèche dans mon cœur, et là, le diable s'y engouffre. Et puis, il en profite. Première chose, tu veux résister à la tentation, soumets-toi à Dieu. C'est une théocratie. Dieu doit régner sur ta vie comme il doit régner sur la mienne. C'est valable pour moi aussi. Hein. C'est exactement la même chose. Deuxième chose, deuxième personne à qui on doit se soumettre, soumettez-vous les uns aux autres, dira l'apôtre Paul aux Éphésiens. Version parole vivante traduit par respect pour le Christ, prenez chacun votre place dans l'ordre établi, vous soumettant les uns aux autres. Sous-entendu, on se doit, de se respecter les uns les autres et de respecter l'autorité qui est en place dans l'Église. Troisième chose, mais je nuancerai mon propos tout à l'heure. Vous allez voir, parce que je suis quand même assez objectif comme garçon. Troisième personne à qui on doit obéir, j'aime bien ce verset. Hébreux, je l'ai mis en grand dans ma chambre. Hébreux, chapitre 13, verset 17. Obéissez à vos conducteurs, soyez leur soumis. Amen. J'entends un amen. Allez-y, attends. Vous voulez que je vous le fasse, que je vous le grave dans votre ville, etc. Car ils veillent au bien de vos âmes, dont ils devront rendre compte. Ça, c'est beaucoup moins drôle, ça, je l'ai oublié. Faites en sorte qu'ils puissent le faire avec joie, et non en gémissant, ce qui ne serait pas à votre avantage. Alors, là, je veux nuancer. Parce que ce n'est pas une soumission aveugle. Et faut être objectif, faut être droit. J'ai pas le droit de faire dire la Bible ce qu'elle ne dit pas, même si parfois j'en ai un peu envie, mais là, en l'occurrence, ça serait pas droit. Que dit ce verset? Premièrement, on doit se soumettre à nos conducteurs s'ils, il y a un car, mais j'ai envie de le remplacer par un s'il veillent sur nos âmes. S'ils veillent sur nos âmes. Si ce qu'ils nous disent contribue à l'épanouissement de nos âmes et au fait que nos âmes prospèrent. On verra pourquoi après. Deuxième raison, on la trouve dans deuxième barrière, deuxième limite, on la trouve dans la première aux Corinthiens, chapitre 16 et au verset 15 à 16. Encore une demande, frères et sœurs, vous le savez, Stéphanas et sa famille ont été les premiers chrétiens d'Achaïe, ils se sont mis au service des autres chrétiens. Alors, obéissez à des gens comme eux et à tous ceux qui travaillent activement avec eux. Deuxième condition pour obéir à un serviteur, c'est qu'il soit votre serviteur. Ni plus ni moins. À partir du moment où, là je me mets la pression, où un conducteur spirituel n'est plus votre serviteur, méfiance. Je dis pas qu'il ne faut pas s'y soumettre, mais je dis méfiance. Tout simplement parce que ces deux axes de réflexion ont pour but d'éviter que nous tombions entre les mains de mercenaires, entre les mains d'hommes et de femmes qui utiliseront un pouvoir plus qu'une autorité. Entre les mains de gourous, entre les mains d'hommes et de femmes qui ne serviront pas l'œuvre de Dieu, qui ne prendront pas soin des âmes, mais qui en quelque sorte ne seront que des mercenaires. Méfions-nous. Gardons bien ces choses-là dans notre esprit. Hein. Obéissez à vos conducteurs spirituels, que ce soit moi ou que ce soit un autre. Mais les deux axes qui suivent sont également valables, à condition qu'ils prennent soin de votre âme, et à condition qu'ils vous servent. C'est à cela qu'on reconnaît un serviteur authentique. C'est à cela que l'on peut dire, eh bien oui, je me souviens, parce que c'est un homme qui est véritablement un serviteur. D'accord? Quatrième, je crois, personne à qui on doit soumettre, ça c'est les enfants. Mais on est tous des enfants quelque part. Ma mère n'entend pas, c'est bon, je suis tranquille. Éphésiens chapitre 6, verset 1er. Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. Paul ne dit pas car cela est confortable, mais car cela est juste. Et aux Colossiens, il dira, enfants, obéissez à vos parents, car cela est agréable dans le Seigneur. C'est juste et c'est agréable. D'accord? Donc, finalement, dans ce deuxième verset, je lis le premier parce que je suis un peu court en temps, hein, mais l'obéissance, on voit que c'est un sacrifice. C'est agréable à Dieu. Au même titre que la louange est agréable à Dieu. Au même titre que des chants peuvent être agréables à Dieu. Mais la soumission, lorsqu'un enfant se soumet à son père, lui obéit, bien, c'est un sacrifice qui fait monter. Il sacrifie son caractère, il sacrifie ce qu'il est, et en cela, il devient agréable à Dieu. Parfois, on se demande, Seigneur, comment est-ce que je peux être agréable? Et on se souvient de ce que Samuel dira à Saül, hein. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. L'obéissance est un sacrifice. Je m'offre lorsque je m'obéis, parce que quelque part, vous êtes comme moi, rassurez-moi. Obéir, c'est pas donné. Et c'est loin d'être simple. Et c'est loin d'être facile. Alors, en conclusion de cette seconde partie, quelle est la définition du mot obéir en grec? Et on va voir que c'est important. Écouter, apprendre, admettre et être d'accord. On a une gradation là, ou plutôt on a une dégradation. Puisque ça commence par écouter, apprendre, admettre, déjà le terme est moins fort, et ensuite c'est être d'accord. Je l'aime bien ce dernier terme. Parce que pour bien obéir, je crois qu'il faut comprendre. Je ne sais pas si vous êtes bâti comme moi, mais à partir du moment où on me dit qu'il faut faire les choses parce que c'est comme ça, j'ai plutôt tendance à ne pas les faire. Pour moi, ça me convient pas. Hein, quand on me dit faut obéir parce que je suis le chef. M'a toujours fait marrer, ça. Hein. M'a toujours fait marrer. Mais, par contre, quand un chef nous explique les choses, hein, et nous dit, eh bien, qu'il est nécessaire de le faire, et pourquoi est-ce qu'il faut le faire, eh bien, je crois de tout mon cœur, eh bien, que là, l'obéissance est plus facile. Et je vous le dis de temps en temps, mais pour moi, c'est important. Essayez de comprendre pourquoi Dieu vous dit les choses. Essayez de comprendre pourquoi vos parents vous disent les choses. Essayez de comprendre pourquoi vos patrons, puisque notre texte dit, eh bien, soyez soumis, eh bien, esclaves, soyez soumis à vos maîtres. Pourquoi ils vous disent les choses? Et à partir du moment où on comprend les choses, à partir du moment où on donne un sens aux choses, même au texte de la parole de Dieu, parce que Dieu a toujours des raisons pour dire les choses, eh bien, qu'est-ce qui se passe? L'obéissance est beaucoup plus facile. Alors oui, pour la soumission. Oui, pour la soumission. Et il est nécessaire que nous le soyons. Mais, simplement, sachons que c'est une offrande que nous faisons à Dieu. Et vivons-le en tant que Dieu. Chaque fois que je contrains mon être, eh bien Seigneur, ça vaut toutes les louanges du monde. Ça vaut tous les chants du monde. Seigneur, je me mets sur l'autel et je te dis, oui, tu as la première place. et tu es réellement mon maître. Troisième raison, et là je dépasse mon temps, vous m'en excuserez, c'est l'absence de révélation. Dans le premier livre de Samuel, il est dit que la parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Donc, il n'y avait pas de révélation. Il y avait, les hommes n'entendaient plus la voix de Dieu. Et Dieu ne parlait plus à son peuple. Oh, j'ai fait une erreur. Vous dormez déjà? Est-ce que c'était dans la volonté de Dieu de ne plus parler à son peuple? De ne plus guider son peuple? C'est que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et qu'il a toujours guidé son peuple. Mais le problème ne venait pas de Dieu, comme bien souvent d'ailleurs. Mais le problème venait de qui? Du fait qu'il n'y avait plus de réceptacle, qu'il n'y avait plus d'hommes, qu'il n'y avait plus de femmes qui soient en mesure de recueillir la parole de Dieu. Le livre des Proverbes au chapitre 29 au verset 18 dit que lorsqu'il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Notre version traduit lorsqu'il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein. Heureux s'il observe la loi. Donc, là, le peuple d'Israël vivait dans son quotidien, dans sa routine, vivait au milieu de ses idoles, au milieu de son péché, et il n'y avait plus la voix de Dieu. Ils étaient perdus, ils étaient paumés. Il n'y avait plus le maître suprême là qui régnait, qui était au-dessus et qui dirigeait. Parce qu'il n'y avait plus d'homme qui, finalement, recevait la vision. Vous savez, pourtant la vision, elle avait été donnée. Et donnée au peuple lorsqu'ils sont venus en Canaan. Quelle était cette vision? Tu rentres dans le pays, vous la faites synthétique, hein, et puis tu déposséderas, tu prendras le pays pour toi seul. C'est-à-dire que tous les habitants de ce pays, eh bien, tu les mettras à la porte, et puis le pays, tu le domineras toi et toi seul. Et lorsqu'on regarde dans le premier livre des juges, on s'aperçoit de plusieurs choses. On s'aperçoit que, je vous prends des versets quelque peu au chapitre 1er au verset 27, Manassé ne posséda pas les habitants de Beth-Shean. Éphraïm ne déposséda pas. Zabulon ne déposséda pas. Aser ne déposséda pas. Nephtali ne déposséda pas. Bref, on s'aperçoit que le travail va être fait à moitié. Ils vont cohabiter avec les habitants du pays. Et quelle est la conséquence? Les habitants du pays vont les corrompre et vont les amener au culte des autres dieux. On est converti, on est nouveau. Amen. Amen. C'est bon, on est là? Ah. Ouais, il me semble, hein. On est rentré dans le pays promis. Même si l'image peut être discutée. Le principe. Il n'y a pas encore des choses de notre ancienne nature. Il faut déposséder. La vision. La vision pour ma vie. Oui, je suis sauvé. Je suis sauvé par grâce. Simplement, je suis tous les jours en chantier. Tous les jours. Et à chaque moment, à chaque instant de ma vie, eh bien, je dois veiller à ce que mon ancienne nature, mon ennemi, mes ennemis de l'intérieur, là, eh bien, je les extirpe de ma vie par l'action du Saint-Esprit. Et cette notion de vision, cette vision de révélation, c'est cette dimension prophétique, cette dimension de la vie de l'Esprit, qui fait que, parce que moi, par moi-même, je ne suis pas capable de devenir meilleur. Ma femme a réussi à me changer un petit peu. Heureusement qu'elle est Seigneur, parce que sinon elle serait mal barrée. Et finalement, il y a toute cette ancienne nature à enlever, à arracher. Toute cette notion de besoin de vision et de besoin de révélation. Alors en conclusion, j'ai d'autres choses à dire, mais tant pis. En conclusion, ne vivons pas l'époque des juges. Même si cette époque est sombre. Veillons toujours, eh bien, à privilégier l'intérêt des autres et l'intérêt de Dieu, même si nous n'avons pas à nous écraser et à nous diminuer, à nous traiter comme un moins ou moins que rien. Mais regardons l'autre et sachons et cherchons à comment est-ce que je vais faire pour bénir. Comment est-ce que tu vas faire pour bénir ton collègue de classe demain? Comment est-ce que je vais faire pour bénir mon voisin demain? Comment est-ce que je vais faire? Comment est-ce que je peux être en bénédiction? Deuxième chose, soumettons-nous comme une offrande, comme un cadeau à Dieu. Ça sera un bel acte d'adoration. Et troisièmement, sachons que garder la vision que Dieu a donnée. Sachons que oui, nous sommes sauvés, mais que quelque part, eh bien, nous avons à avancer. Nous avons à gagner du terrain. Nous avons à déposséder ce que nous sommes, à nous dépouiller de ce que nous sommes, des œuvres mortes de la chair, comme dira Paul. Et stop, j'arrête. On va prier. Que le Seigneur soit béni. Amen.